complètement culte en podcast sur dynamicone.be. Get ready for the next battle.
Tu veux qu'on se la donne, dis? Tu veux qu'on se la donne?
Du côté de la Liga, la rivalité Real Madrid-FC Barcelone alimente le championnat espagnol depuis des décennies, depuis sa création même. La grande majorité des fans résume la Liga que par l'histoire et l'héritage de ces deux grands clubs espagnols. Pendant toute une décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont monopolisé le milieu du football avec leur rivalité unique et légendaire. On a tendance à l'oublier, mais le football est un sport collectif. Malgré leur talent inégalable, ils sont parvenus à battre des records et à remporter autant de titres grâce à des coéquipiers de classe mondiale. Durant la décennie 2010, le Barça et le Real ont connu dans leurs effectifs respectifs deux trios offensifs de prestige et d'une efficacité exceptionnelle. Du côté des Catalans, on avait la MSN. Un trio constitué de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar Junior. Pendant trois saisons, ces artistes balle au pied ont défini le football par leur alchimie sur leur terrain, leur qualité technique et leur aisance à trouver le chemin des filets. Et du côté de la capitale espagnole, le Real Madrid possédait la BBC, un trio qui était constitué de Gareth Bale, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Avec CR7 en chef de bande, eh bien ils ont réussi à remporter 4 ligues des champions, dont 3 d'affilée. Autant vous dire que c'était une efficacité devant les cages qu'on avait rarement vue sous les ordres de Carlo Ancelotti et de Zinedine Zidane. Deux trios iconiques, deux trios efficaces, deux trios qui ont marqué l'histoire du football moderne. Mais entre les deux, quel est le plus culte? Quel est celui qui a le plus marqué les esprits? Quel est le meilleur? C'est ce qu'on va essayer de savoir tout de suite, mais avant de rentrer dans le versus à proprement parler, ça évoque quoi pour vous, MSN, BBC? Maxime?
C'est l'égérie Ronaldo-Messi, donc c'est une continuité du débat. Peut-être on est face au, même très certainement pour moi, les deux plus grands trios d'attaque de l'histoire du football. D'un côté, on avait le football pur. D'un autre côté, on avait le football statistique, donc c'est un peu polarisant, mais c'est deux institutions différentes et deux institutions un peu à l'image de leur club. Donc voilà, on sûrement...
Pour continuer ton propos, c'est deux manières de concevoir le football.
Ce que j'ai, ouais, vraiment.
Messi, c'est l'artiste, c'est le talent inné. Voilà. Et de l'autre côté, Cristiano Ronaldo, c'est le travail, l'efficacité, le mec qui
avec beaucoup de talent,
qui chôme pas, quoi.
Évidemment. C'est un talent monstre, Ronaldo, faut pas oublier. Mais voilà, donc deux institutions différentes, mais très certainement, pour moi, les deux plus grands trios d'attaque de l'histoire du football.
Berry.
Pour moi, c'était vraiment deux trios incroyables. C'est sûr, il n'y a rien à dire. Après, moi, je ne vais pas faire semblant et dire que je préfère la BBC. Non, c'est sûr et certain que pour moi, la MSN...
Tu mens.
Non, la MSN, c'est sûr, elle m'a plus fait rêver. Si maintenant, on sort un peu des statistiques, juste quand tu regardais l'entente qu'il y avait sur le terrain, même hors du terrain, c'était juste impressionnant.
Surtout avec un Brésilien, un Uruguayen et un Argentin, qui sont normalement très une compète, tous les trois capitaines et marques de fabrique de leur équipe nationale. Là, c'est marrant aussi, ça.
Et ce qui est très marrant, c'est que Neymar a failli rejoindre le Real avant de signer avec FC Barcelone.
Et après aussi.
Malik.
Pour moi aussi, c'est deux trios exceptionnels qu'on a eu la chance de vivre au même moment, dans le même championnat. Quand on y pense, c'était vraiment une chance qu'on avait chaque week-end, chaque journée. C'était, ils se disputaient
ils se disputaient à distance.
C'est ça,
après, ils n'auraient peut-être pas été aussi iconiques s'ils n'avaient pas été
C'est cette proximité entre les deux. On les retrouvait chaque week-end. Je me souviens qu'il y avait des journées où la BBC mettait un triplé. La journée d'après,
de l'autre côté, ça répondait.
On avait au sommet du classement.
Je suis nostalgique, arrêtez, les gars.
Quand on y repense, vraiment, on avait.
Le football, il a changé.
Et on n'a plus ces trios, on n'a plus ça dans le football actuel, même si j'ai l'impression qu'on parle d'un football.
On l'a un peu revécu durant cet Euro avec le trio Nico Williams, Lamine Yamal et Alvaro Morata. C'est pas le même prestige, mais
pas la même chose avec
il y avait quand même une certaine connexion, tu vois, sur
avec
le terrain.
Football technique, quoi. Voilà, du football
comme Berry l'a dit, j'avais une préférence pour la MSN parce que je ressentais cette alchimie entre les trois. C'est comme tu as dit, que ce soit sur le terrain et en dehors des terrains, alors que de l'autre côté, la BBC, j'ai l'impression que c'était
C'était robotisé.
C'était trois machines, voilà, trois machines.
Ouais, c'était robotisé.
Ouais, je me souviens qu'il y avait une déclaration de Ronaldo qui avait dit que nous, on n'a pas besoin d'aller au restaurant pour être les meilleurs amis. Ouais. Ou voilà, nous, on est là, on fait notre travail.
Bah, de toute façon, même ça se voit.
Et ça se ressentait.
Ça s'est vu,
quoi,
ça se ressentait. Et ça s'est vu même après. Avec
j'ai pas l'image marquante de. Enfin, on connaît cette célèbre photo de Messi, Neymar et Suarez.
Elle voulait tout dire. Elle voulait tout dire.
J'ai pas d'image comme ça de la BBC.
Après aussi, il n'y avait pas une telle hiérarchie aussi dans la MSN qu'il y avait à la BBC.
Exactement. Voilà,
la BBC,
c'était
Ronaldo, et puis tu avais un peu ces deux soldats, alors que la MSN, ça restait Messi la tête d'affiche, mais tu avais Neymar, quand Messi ne performait pas, c'était lui qui reprenait la tête de l'équipe. Tu avais un Suarez qui pouvait aussi faire le taf.
On l'a bien vu aussi quand Messi, je pense en 2016, il s'était blessé à un moment. Neymar chauve là.
13 buts, 8 assists en 10 matchs.
Je me souviens d'un classico à Bernabeu, le 4-0. Messi n'est pas là et tu sens que.
Il est perdu, les familles.
Non. Je ne vais pas poser des questions alors que je connais la réponse. Je sais très bien que vous préférez le trio MSN par rapport à la BBC. Mais avant d'enchaîner avec une autre question, quelques chiffres. Alors, la MSN a existé pendant 3 saisons, de 2014 à 2017. C'est 451 matchs pour 364 buts et 272 passes décisives. Mais la BBC du côté du Real Madrid, elle a existé un peu plus longtemps, c'était de 2013 à 2018. C'est 658 matchs pour 442 buts et 243 passes décisives. Bon, c'est pas comparable parce qu'ils ont eu deux saisons de plus pour se confirmer. Mais on sent quand même que malgré trois petites saisons en face, ils ont quand même plus de passes décisives que la BBC. Donc ça montre quand même une certaine connexion entre les trois. Mais lequel fut le plus efficace? Parce que certes, il était plus beau à jouer, mais si vous regardez le palmarès, la MSN, c'est 9 trophées, alors que la BBC, en 5 ans, c'est 14. Et 4 Ligues des Champions, dont 3 d'affilée sous l'ère Zinedine Zidane. Donc maintenant, lequel a le plus marqué les esprits? Lequel a été le plus performant?
Alors, je pense que le plus marqué les esprits, en toute objectivité, sera la MSN. Parce que,
en termes de football.
Football, je pense qu'on est arrivé au pic de ce qu'un trio pouvait faire.
Mais ne dit-on pas que l'histoire se remémore les titres?
Peut-être, mais je pense que quand tu laisses une trace indélébile d'un passage aussi performant dans l'histoire du football, tu marques les esprits. Et encore aujourd'hui, je pense qu'en toute objectivité, on mettra la MSN, pour moi, je crois, le plus grand trio de l'histoire. Mais c'est vrai que si on regarde statistiquement ce qu'a fait la BBC, qu'on soit barcelonais ou pas, c'est gargantuesque. Enfin, trois LDC d'affilée, c'est monumental, avec un Ronaldo monumental.
Même avec, si on doit parler d'autres trios qui étaient, on va dire, derrière eux, Casemiro, Modric et Kroos, ça fait très peur déjà ce qu'ils ont fait. Trois Ligues des Champions. Enfin, au total, 6 Ligues des Champions, je pense.
Ouais. 6 Ligues des Champions.
Peut-être pas Casemiro, parce qu'il est parti un peu avant.
Si, en 2022, il était encore là. Donc, je pense qu'il y avait
5. Il a 5. Mais comme Kroos et Modric, ils ont eu leur 6e là maintenant. Et ça fait vraiment peur au niveau des stats, tu vois.
C'est déjà arrivé dans l'histoire des gens qui avaient 6 Ligues des Champions?
Non. Là, c'était la première fois, je pense.
Ils étaient plusieurs à 5 Ligues des Champions, mais là, depuis.
Avec Carvajal, Nacho.
Mais pour revenir au débat sur.
Il a un nom de chips, qu'est-ce qui se passe?
Pour revenir au débat sur la BBC, ce qui peut peut-être un peu fausser nos souvenirs. Quoi. Moi, j'ai le souvenir d'une BBC, mais aussi de Isco. Isco qui est là sur deux finales. C'est lui qui jouait.
C'était
Benzema, Ronaldo et Isco.
Et Gareth Bale.
C'est vrai.
C'est pour ça que peut-être dans les images un peu marquantes, surtout ces finales de Ligue des Champions, Bale n'est pas titulaire. C'est pas la BBC, c'est Ronaldo, Benzema et Isco.
C'est vrai, on a tendance à l'oublier. Et quel joueur c'était par contre lui?
Après, c'est surtout des acronymes très iconiques, la MSN. Ça rappelle le réseau social, BBC, la chaîne de télé. Donc voilà, je pense que ça n'a pas été choisi au hasard. Et que les trios qui ont suivi n'ont pas été aussi iconiques. D'ailleurs, il y a eu d'autres trios dans l'histoire du football dans la même époque. On a eu Xavi, Iniesta, Busquets, par exemple, du côté du FC Barcelone. Ou sinon, si on va en Première Ligue à Liverpool, il y avait Salah, Mané, Firmino, qui ont aussi marqué un peu les esprits, notamment en 2019 avec la Ligue des Champions remportée. Et puis, du côté de Manchester City, il y avait De Bruyne, Rodri, Silva.
Dans un autre registre, tu faisais référence au trio de Liverpool. Bah, c'est celui que je trouvais qui se rapprochait le plus de la MSN dans cette notion de plaisir. Voilà, c'est ça. Ouais, on sentait aussi que, vrai. Même si par la fin, ça s'est un peu gâté entre Salah et Mané.
Bah, surtout avec la Coupe d'Afrique.
Voilà,
et tout,
voilà.
Tout ça,
mais on sentait que même l'année où ils remportent la Ligue des Champions, il y avait ce truc entre eux où c'était aussi du football plaisir, où ça n'hésitait pas à échanger. Je me rappelle de Firmino qui était vraiment ce joueur
Firmino,
qui faisait.
C'était vraiment le lien entre les deux
c'est
autres.
C'est ça, un peu le Benzema de la BBC. Il était là pour faire jouer les deux autres et il y avait vraiment ce truc de plaisir.
Il y avait aussi encore cette innocence. Ça faisait deux ans qu'ils étaient au haut niveau. Tu vois, ils jouent un peu comme au quartier.
Moi, je pense qu'il y a aussi un trio qu'on oublie un peu. Pour ceux qui connaissent vraiment, vraiment le foot, ben, il y a le trio Cavani, Lavezzi, Hamzik.
Ah, le PSG, côté de Naples.
Du Naples.
Ouais,
de Naples.
C'est Lavezzi, Cavani, pour moi, c'était PSG.
Non, mais Hamzik.
Parce que Cavani et Lavezzi ont rejoint par après le PSG.
Je n'ai pas connu tout ça.
Donc, non, mais c'est vrai.
Moi, dans les années 2010, c'était vraiment...
impressionnant.
Et ils avaient fait une excellente saison et le PSG avait jeté leur dévolu sur d'abord Lavezzi, ça a été un flop du côté du PSG, et puis Cavani qui lui pour le coup était un excellent transfert.
Il l'a confirmé mais ils l'ont un peu...
Bah, ils voulaient Hamzik aussi, ils voulaient reformer ce trio. Ouais, c'était vraiment l'objectif, il y avait une nombreuse rumeur d'Hamzik au PSG, mais au final...
C'est pur ça.
Ouais, lui, il avait vraiment ce truc de. Il aimait vraiment Naples, Hamzik. Ouais. Je pense qu'il
a
pas fait
toute
sa carrière là-bas.
Ouais,
non, je pense que vers la fin,
il est retourné au pays.
Dans le pays, mais.
Il a fait la majorité de sa
carrière. Et pour rester sur le PSG, il y avait un autre trio qui aurait pu devenir iconique en termes de prestige, Mbappé, Messi, Neymar. Quel gâchis, ça aussi. Non, mais sur le papier, quand tu vois ça, tu te dis comment ils n'ont pas pu triompher. Mais tu te rends compte que les égos ont pris le dessus.
Pourquoi
il y a un joueur.
Mobutu.
Lui-même, en personne.
Non, mais il a raison. Je pense qu'il y a eu un problème d'égo où Mbappé s'est pris pour un joueur qu'il n'était pas encore. Ou qu'il était en train de devenir.
Non,
il était monstrueux.
Kylian, le dictateur, quoi. Le mec, il voulait être la star du PSG. Il a réussi à évincer un à un Neymar et Messi.
C'est une dinguerie quand tu penses.
Bon, même si Messi est en fin de carrière, Neymar, pour moi, ouais, mais il avait quand même de belles années devant lui. Il a pas
c'est
confirmé.
Un Brésilien.
Je pense surtout ce qui n'a pas marché, c'est que dans l'idée principale du PSG, c'était vraiment on voulait faire quelque chose de marketing. Ouais. Alors que la BBC, la MSN, c'était pas du tout. On était vraiment dans le sportif, on voulait rassembler les meilleurs attaquants.
De résultats aussi. Tu
voilà, c'est ça. Alors que le PSG, on avait vraiment l'impression que c'était. On a pris Messi parce qu'on voulait faire quelque chose de.
Parce que c'était un peu pour le truc aussi avec Neymar.
C'est ça, exactement.
En fait, on a vu une différence aussi quand Neymar est parti du Barça et quand Messi est arrivé au PSG avec Neymar.
On a
senti directement qu'il voulait l'accueillir en fait. Tu vois, Neymar, il voulait l'accueillir et faire les choses de la meilleure manière possible. Contrairement à Mbappé qui voulait, c'est l'impression qu'on a, on n'était pas en interne, qui voulait un peu prendre les devants en fait.
Même si au début ça présageait de bonnes choses, mais au final.
Ou même le début de la saison passée, avant que Neymar parte.
Avant la Coupe du Monde 2022,
pour moi c'était le meilleur trio actuel.
La première partie de saison avant la Coupe du Monde.
Neymar et tout ça, des Messi, Neymar et Mbappé.
Je pense que le moment de bascule c'est cette finale, peut-être, même si ça a un peu commencé avant, mais la finale France-Argentine, je pense que dans le. Peut-être
des février. Au JO, Léo.
On n'a pas voulu acclamer Léo aussi au Parc des Princes.
Il y a toutes des choses qui ont fait. Je trouve ça bizarre un peu, tu vois.
Bon, revenons sur la BBC et la MSN. Alors, on a remarqué au niveau de la MSN, même si Messi était la star de ce trio, ça allait. Quand l'un n'allait pas bien, l'autre prenait ses responsabilités. Ouais. Alors que du côté de la BBC, c'était Ronaldo le patron, c'était lui la vitrine du club. Et il faut quand même saluer le comportement de Gareth Bale et Karim Benzema qui ont accepté d'être les seconds, d'être les faire-valoir de Cristiano Ronaldo. Et Benzema a accepté ce rôle-là jusqu'au départ de Cristiano. Et après, il est vraiment devenu la tête pensante de l'équipe. Et là, pour le coup, on voit quand même le professionnalisme de Karim Benzema et il mérite totalement son ballon d'or et il a enfin eu le moment de briller.
Ouais, mais après, il ne pouvait pas à côté de Ronaldo à cette époque-là.
Ah non, ça c'est sûr. Mais par rapport à ça, donc Messi et Ronaldo ont été au centre de tous les débats et intentions. Ont-ils, malgré eux, éclipsé leurs coéquipiers qui ont contribué à l'efficacité offensive ?
D'un côté, oui, à la BBC, c'était l'équipe de Ronaldo, c'était pas l'équipe de la BBC, alors qu'à la MSN, au début, c'était l'équipe, donc dans les années 2009-2010 de Messi, et avec la MSN, ça a été la MSN. Tu vois, c'était plus Messi toujours, voilà, ça reste Messi, mais c'était la MSN, c'était eux, leur armada offensive, à l'instar du Real de Madrid.
Surtout quand on voit l'après-MSN et l'après-BBC, on a vraiment senti que Benzema, le départ de Bale et de Ronaldo, c'est devenu le meilleur joueur du monde par la suite. Alors qu'on a l'impression que Suarez et Neymar, ils n'ont jamais été aussi meilleurs que lorsqu'ils étaient avec Messi, alors que
mais,
Benzema...
Mais je trouve quand même qu'un Benzema, il n'a pas forcément changé son style de jeu.
Oui,
contrairement à un autre où ça a peut-être un peu plus marqué, c'est un Gareth Bale. Gareth Bale, lui, il était un peu plus dépendant de ça. Alors que Benzema, ben, une fois que Ronaldo il est parti, Bale est parti, etc., on a vu que lui, son style de jeu, il est resté similaire et il continuait à aider ses coéquipiers, tu vois.
C'est juste l'importance qu'il a pris, mais le joueur a tellement changé.
Et quand tu regardes autour de lui, c'est juste qu'il n'y avait plus un Cristiano Ronaldo, il y avait Vinicius qui arrivait sur le côté droit, Rodrigo, etc. Mais ce n'était pas des Cristiano Ronaldo, donc il avait quand même cette image de bah, c'est lui le leader.
Et il a surtout assumé ses responsabilités parce que c'est devenu l'attaquant. Quand tu dis que c'est resté un peu le même joueur, mais il a beaucoup plus staté, l'attaquant. Ouais.
C'est sûr.
Ne voulant pas rester dans l'ombre de Lionel Messi, Neymar a décidé de quitter le Barça en 2017 pour rejoindre le PSG, en devenant par la même occasion le joueur le plus cher de l'histoire du football. A-t-il eu raison de quitter le club ?
Non.
Merci, au revoir, allez, ciao.
Moi, je veux dire oui, mais...
La suite a donné la réponse à cette question, mais quand on y repense dans l'idée, je pense que le Neymar du Barça ne pouvait plus se permettre de rester dans l'ombre de Messi. Je me rappelle que lorsqu'il signe au PSG, on se dit que voilà, il va prendre une dimension totalement folle.
C'est vrai qu'il a très bien commencé
à Paris.
C'était jamais vu.
Ça faisait peur.
À l'échelle de la Ligue 1, bien sûr, mais je me souviens que même en Ligue des Champions.
8 buts, c'était le meilleur buteur. Je crois qu'il a fini 3ème meilleur buteur alors qu'il s'est fait éliminer en 8ème, tu vois.
Ouais, et qui sait combien de fois il s'est blessé aussi, surtout ça.
Mais non, mais je pense qu'à cette époque-là, il avait raison de le faire. Pourquoi? Parce que pour moi, sur la dernière saison au Barça et sa première saison au PSG, pour moi, c'était le meilleur joueur du monde à ce moment-là. La remontada, c'était lui. Le match contre la Juventus, c'était lui.
Ouais.
Il a mis 4 passes décisives aussi cette année-là en un match. Mais c'était quasiment, voire l'un des meilleurs joueurs du monde avec un niveau presque pour moi historique. Mm-hmm. C'est presque jamais vu pour moi dans l'histoire du football.
Pour conclure donc, premier versus, lequel entre ces deux trios a le plus marqué les esprits et le plus culte ?
MSN pour moi.
MSN.
J'ai aussi la MSN, mais je banalise pas ce qu'a fait la BBC, surtout sur cette régularité, sur plusieurs années, surtout en Ligue des Champions. Mais
Moi, je vais dire la BBC pour une raison.
Madrilène.
On va mettre ça de côté, mais le triplé en Ligue des Champions, j'ai pas le souvenir qu'une équipe ait déjà fait ça dans l'histoire de la LDC. C'est quand même exceptionnel.
La question que je poserai, c'est quel prime a été le plus impressionnant ? Parce que si on parle de prime... Je pense que la MSN, il n'y a pas de débat. Il y a des périodes de la MSN où
c'est vrai que ouais, c'était si on parle incroyable. Des champions, des statistiques, des trophées, etc. BBC.
Pour moi, c'était pas la BBC, la Ligue des Champions, c'était Ronaldo, tu vois. C'était 17 buts.
Il y a des moments marquants de Bale aussi sur la finale.
Ouais, la finale contre Liverpool, bien sûr. Mais
c'est lui qui.
Pour moi, il n'y a pas.
Et c'est surtout moi, c'est peut-être c'est surtout Benzema. Quand on voit ce qu'il est devenu par la suite, on se dit peut-être qu'il était peut-être pas à sa place dans ce trio. Alors que
la MSN, c'est vraiment les trois qui étaient.
C'est ça, exactement.
Qui étaient impactants, en fait, dans le jeu. Et...
Donc pour
c'est
moi,
peut-être ça aussi, finalement, la différence entre ces deux clubs. Parce que dès qu'il y en a un qui a quitté le trio à la MSN, ils ont eu du mal à retrouver, on va dire, le même niveau. Ils ont essayé de remplacer Neymar par Philippe Coutinho.
Ouais,
on a vu le résultat. Alors qu'à la BBC, lorsque Cristiano Ronaldo a quitté le club en 2018, ça n'a pas empêché le Real Madrid de rester un club performant et d'avoir une efficacité devant les buts. Donc au final, le club est au-dessus des joueurs, là où au Barça, c'est les joueurs qui ont une certaine importance et qui ont le prestige du club sur leurs épaules. Au Real, c'est différent.
Je pense que la gestion du club du Real Madrid, c'est la meilleure gestion du monde. Il n'y a rien à dire sur ça. Quand tu as un président
comme Florentino... C'est le club le plus bankable aussi,
déjà, il y a ça. Mais la gestion du Florentino Pérez, il n'y a rien à dire.
C'est même le plus grand club sportif de l'histoire, le Real de Madrid.
Pérez, c'est peut-être le plus grand président
sportif aussi.
Surtout quand on voit, il a pas fait d'état d'âme quand il a fallu séparer de Ronaldo. Pour lui, Ronaldo.
Il est d'ailleurs parti comme un malpropre. Il a eu le droit à une vidéo sur YouTube en mode gracias Ronaldo.
C'est impressionnant cette faculté qu'ils ont à chaque fois de. Je me rappelle
de passer à autre chose en fait.
C'est ça exactement.
Regarde nous, on pense encore à Messi, c'est chaud.
On pense à Messi, on pense à Dembélé. Je me rappelle aussi de l'échec Hazard. Ils ont essayé de remplacer Ronaldo par Hazard, ça a pas marché, mais c'est pas grave. Il y a des Rodrigo, il y a des Vinicius.
Vinicius, il est arrivé.
Cette faculté à passer à autre chose, et que ce soit Ronaldo ou même Sergio Ramos ou plein de légendes comme ça. Tu faisais référence à la gestion du club, c'est un modèle totalement, oui.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce versus qui opposait la MSN et la BBC.
Concentrão, quem é esse jogador?
Sim, jogador, sim.
Concentrão.
Coentrão, aí está. Em português. Coentrão.
Muito bem. Coentrão é um jogador muito bueno. Tenho demonstrado nos últimos anos no Benfica que era um grande jogador. E estamos contentes com ele aqui.
Está concentrado?
Estou concentrado, sim.